Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. Nous avons déjà abordé succinctement le problème lors d'un numéro précédent consacré à la qualité d'eau de la Garonne. L'alimentation en eau de la métropole est une question de première importance pour les années à venir. Derrière celle-ci, il y en a une autre, celle de la distribution et donc de la gestion de l'eau. Plusieurs modes sont envisageables dans ce domaine et le sujet fait l'objet d'une réflexion et de débats au niveau métropolitain, entre autres au CODEV, le Conseil de Développement de Toulouse Métropole. Nous allons faire le point sur la réflexion et les discussions en cours, les solutions envisagées ainsi que sur le mode actuel de gestion de l'eau dans la métropole en répondant à la question « La distribution d'eau potable dans la métropole, comment ça fonctionne? Combien ça coûte ?» Pour évoquer ce sujet, j'ai voulu recevoir quelqu'un qui le connaît bien. Il est membre du CODEV et il a participé au débat sur le devenir de la gestion de l'eau dans la métropole toulousaine. Il s'appelle Guillaume Drijard. Il est aussi président de l'Union des comités de quartier et c'est à ce titre qu'il est membre du CODEV. Bienvenue à vous aussi, Guillaume Drijard. Pour commencer notre échange, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement ce qu'est l'Union des comités de quartier que vous présidez? Quelle est sa raison d'être et son rôle dans le débat démocratique sur notre territoire?
Bonjour à tous. L'Union des comités de quartier est une vieille association de 1979 qui regroupe des associations de quartier qui se préoccupent du cadre de vie au sein de l'agglomération. On comprend à peu près une cinquantaine d'associations, on diffuse à peu près 80 associations. Le cœur de l'association, c'est les quartiers de Toulouse, mais ça s'est étendu ces dernières années aussi aux communes limitrophes, notamment avec les enjeux métropolitains, que ce soit en urbanisme, en mobilité, et aussi pour l'eau, comme on va le voir. Notamment, on a des associations sur les communes de Saint-Jean, de Mondonville, Castelginet. Donc, on est en train de prendre une place un peu au sein de la métropole, ce qui nous permet d'avoir des échanges à l'échelon soit de la ville de Toulouse, soit directement avec la métropole sur des sujets qui vont au-delà des préoccupations des quartiers. Pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil de Développement de Toulouse Métropole, les conseils de développement sont des représentants de la société civile. C'est une instance qui est obligatoire au sein des collectivités, donc Toulouse Métropole doit avoir un conseil de développement avec des représentants de la société civile. Il y a plusieurs collèges de représentants de la société civile, il y a un collège avec les acteurs économiques, socioprofessionnels et syndicats, il y a un collège avec les institutions, les organismes publics, un autre avec la vie associative, un collège territorial avec des représentants des communes et aussi un collège dit de personnalités qualifiées. Donc l'Union des comités de quartier, du fait de son activité sur la métropole, a été sollicitée pour faire partie du collège vie associative. Donc on est plusieurs associations de quartier à s'impliquer dans les activités du CODEV qui sont notamment des groupe de travail thématique qui élabore des avis rendus à la métropole sur différents sujets. Donc on est plusieurs associations impliquées notamment sur les thématiques de l'urbanisme, de la mobilité.
Merci pour tous ces éclairages et explications. Nous allons développer plus tard les différents aspects de la gestion de l'eau dans la métropole. Dans l'immédiat, on retrouve Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Les transports et les déplacements toujours au cœur de l'actualité métropolitaine vers une meilleure mobilité routière dans la zone aéroportuaire toulousaine.
Oui, le projet Commute constitue le volet mobilité de l'initiative Déméter qui fédère 30 partenaires autour du développement des plateformes aéroportuaires et aéronautiques et ce dans le respect de l'environnement. L'initiative Déméter vise, elle, par l'émergence de projets innovants, à améliorer les déplacements dans la zone aéroportuaire et aéronautique, à préserver la qualité de vie des usagers et habitants tout en soutenant la dynamique économique du secteur. Dans les faits, Commute propose d'expérimenter un système de gestion collaborative public-privé de la mobilité urbaine avec l'ensemble des acteurs de la plateforme pour décongestionner le trafic sur cette zone. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 80% pour un coût total de 5,2 millions d'euros. Il associe, en plus de Toulouse Métropole, les principaux acteurs de la zone aéroportuaire aéronautique de Toulouse-Blagnac, à savoir Tisséo Collectivité, Airbus, ATR, l'aéroport Toulouse-Blagnac, bien sûr, Safran, Sopra, Steria, Afnor, le club d'entreprise Réussir.
Dans un tout autre domaine, un pas de plus a été fait vers la transition énergétique pour Toulouse Métropole.
En effet, une avancée qui passe par le lancement de l'enquête publique méthanisation des boues de l'usine de Ginestous-Garonne avec valorisation du biogaz produit. Elle s'inscrit dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale au titre du Code de l'environnement. L'usine de Ginestous traite chaque jour 130 000 mètres cubes d'eau usée, une activité qui génère 15 000 tonnes de boue par an. Avec le projet de méthanisation des boues, l'usine transformera cette matière organique en biogaz. Épuré en biométhane, ce gaz sera injecté dans le réseau GRDF pour alimenter une partie des habitations, chauffage ou encore cuisine de l'agglomération et la flotte de bus qui roule au gaz naturel. En 2020, la station produira ainsi 50 gigawatts par heure d'énergie par an, soit la consommation de 10 à 12 000 habitants. Il générera deux fois moins de boue et moins d'odeur. Ce projet figure parmi les actions emblématiques de Toulouse Métropole en faveur du développement durable. L'enquête publique prendra fin le 16 mai. Pour plus d'informations, allez sur le site www.toulouse-métropole.fr.
Et puisque c'est le sujet de cette émission, la gestion de l'eau dans la métropole coule-t-elle de source ? La question est posée.
Oui, début 2018, le CODEV Toulouse Métropole a organisé un café-débat ouvert aux habitants de la métropole portant sur le mode de gestion de l'eau et de l'assainissement. Dans les environnements urbains, il faut pomper cette eau, la dépolluer, l'acheminer jusqu'au consommateur et recueillir les eaux usées pour les épurer à nouveau. Pour assurer ce service, la métropole doit décider en 2018 si elle va gérer l'eau potable et l'assainissement en régie directe, à personnalité morale et autonomie financière, ou si elle délègue cette gestion au privé en ayant recours à une délégation de services publics. Si cette seconde option est choisie, elle devra aussi choisir une entreprise délégataire. Actuellement, plusieurs modes de gestion coexistent sur le territoire métropolitain. La métropole compétente pour les services publics de l'eau potable et de l'assainissement de ses 37 communes a donc décidé d'harmoniser ses services avec une tarification unique sur l'ensemble de son territoire à partir de 2020. Il s'agit d'un enjeu politique majeur pour ses 750 000 habitants et d'un marché important estimé à 1,2 milliard d'euros pour les potentiels gestionnaires privés.
Là, Guillaume Grigeard, nous sommes déjà au cœur du sujet avec la dernière information de ce flash. Est-ce que vous avez des précisions à donner par rapport à ce qui a été dit sur ce café-débat du CODEV consacré à la gestion de l'eau dans la métropole? Et peut-être déjà nous dire qui y participait, parce que c'était vraiment ouvert à tout le monde, pas seulement au monde du CODEV.
Oui, effectivement, le CODEV se contente pas de rendre des avis à la métropole qui peuvent paraître un peu confidentiels, même si on peut trouver les publications sur le site internet du CODEV. Il s'adresse aussi au grand public et vise à contribuer au débat citoyen sur des différentes thématiques, donc à travers des conférences et aussi à travers des cafés-débats qu'on appelle la métropole dans tous ses états. Donc j'en profite pour annoncer que le prochain aura lieu le 22 mai à 18h sur la précarité et l'hospitalité à Itinéraire Bis, 22 rue de Périole. C'est un café-débat qui s'adresse effectivement à tout le monde. Donc là, on avait invité une personne de l'agence de l'eau pour apporter son éclairage. Et il y avait autant des acteurs associatifs impliqués sur le sujet, comme l'association Au Secours ou le collectif Eau Toulouse, Eau et Assainissement Public en Métropole qui étaient présents. Mais il y avait aussi des membres du CODEV, des citoyens, citoyennes qui sont venus aussi pour prendre des informations sur cette question. Donc il y avait à peu près une cinquantaine de personnes. C'était très ouvert.
Très vivant, sans doute.
Très diversifié, oui.
Merci pour ces précisions, ces informations complémentaires. Nous allons maintenant nous plonger, non pas dans l'eau, mais dans sa gestion sur le territoire métropolitain. C'est le thème de l'émission du jour avec cette question. La distribution d'eau potable dans la métropole, comment ça fonctionne? Combien ça coûte?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropolez-vous la suite avec l'invité de ce numéro, Guillaume Drijard, président de l'Union des comités de quartier de Toulouse et membre du CODEV de Toulouse Métropole. Pour bien savoir de quoi l'on parle, je pense qu'il faut que nous décrivions d'abord ce que sont l'organisation et le fonctionnement actuel de la distribution de l'eau potable dans la métropole toulousaine, c'est-à-dire à Toulouse mais aussi dans les communes métropolitaines. Quel est le tableau de la situation aujourd'hui, sachant qu'il peut différer d'une commune à l'autre? Il y en a certaines qui ont des régies, d'autres c'est une délégation de service public, je crois que c'est le terme exact. Alors, quel tableau vous pouvez nous faire de la situation actuelle?
Alors, il y a plusieurs services publics qu'assurent les communes, qui sont la distribution de l'eau potable, d'une part, et l'assainissement des eaux usées, de l'autre part. Donc la distribution d'eau potable, ce service public comprend le captage de l'eau sans traitement.
Pour la rendre potable.
Pour la potabiliser, la rendre potable, et sa distribution jusqu'au consommateur. Et ce service est une compétence communale. Il y a actuellement un mouvement pour que, obligatoirement, les communes doivent le déléguer à un regroupement de communes, ce qu'on appelle les établissements publics intercommunaux. À Toulouse, la compétence a été prise par, à l'époque, la communauté urbaine du Grand Toulouse en 2009. L'assainissement était déjà une compétence du Grand Toulouse en 2001, mais l'eau potable est venue plus tard en compétence. Donc c'est la communauté urbaine à l'époque, maintenant Toulouse Métropole, qui est compétente pour assurer le service public de distribution de l'eau potable. Donc la métropole a hérité de situations différentes suivant les communes. Par exemple à Toulouse, la ville de Toulouse a fait le choix en 1990 de déléguer pour 30 ans à un opérateur privé Veolia, la distribution de l'eau potable et aussi le traitement des eaux usées. À d'autres endroits, il y a pu avoir des choix différents. Par exemple, dans l'ouest toulousain, il y a 5 communes, hein, Brax, Pibrac, Ornebarieux, Colomiers et Tournefeuille, qui étaient en régie municipale, maintenant devenue métropolitaine, pour la distribution de l'eau potable. Dans le sud-est, c'est une régie, mais le travail a été délégué en quelque sorte au privé à travers des marchés de prestations. C'est Suez, Lyonnaise des Eaux, qui l'assure. Dans des communes plus de l'Est, ils sont en lien avec l'Institut de la Montagne Noire, où il y a une convention de coopération. Donc on a une situation très différente, des types de contrats quand le privé intervient très différents, suivant les communes de la métropole. Donc ça, c'est à la fois pour la distribution de l'eau potable, mais on a la même complexité au niveau de l'assainissement. Et si on regarde la facturation, il y a encore des choses différentes qui peuvent se passer. Donc le choix a été fait par la métropole, par un vote en juin de l'année dernière, d'aller vers un service unique de l'eau potable et un service unique de l'assainissement pour l'ensemble des 37 communes. Donc il n'y aura, à partir de 2020, qu'un seul service pour la distribution de l'eau potable avec une tarification unique aussi. Donc ça, ce choix a déjà été fait par le conseil métropolitain en juin 2018. Il a été fait aussi le choix de ne pas déterminer le mode de gestion, ce qui est très singulier, parce que d'habitude les collectivités choisissent d'abord s'ils veulent que ça soit une gestion publique ou une délégation au privé, ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public au privé de ces services. Et après, la procédure se met en route. À Toulouse Métropole, je crois que c'est le deuxième cas en France après Rennes, ils ont fait le choix de mener la procédure d'une délégation au privé en même temps qu'ils étudient la possibilité d'une régie de comparer les deux modes, les avantages et inconvénients des deux modes de gestion, ce qui est compliqué, parce que ce sont deux modes de gestion qui ont des différences et qui rendent la comparaison compliquée, et de décider par un vote en décembre prochain, d'une part le mode de gestion qui est choisi, soit une gestion publique à travers une régie, soit une délégation privée, et, comme ça a été rappelé, si c'est une délégation au privé, en même temps choisir l'opérateur privé qui sera retenu.
Alors, je reviens à des aspects plus pratiques. L'eau que nous buvons, celle qui sort de notre robinet, où que nous soyons dans la métropole, d'où provient-elle? Je crois savoir qu'il y a la Garonne, beaucoup, hein, notamment pour Toulouse, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres provenances, il y a d'autres sources.
Alors, effectivement, pour 98% de l'eau qui est consommée sur la métropole, ça vient de la Garonne. Donc, ça peut venir directement de la Garonne quand l'eau est pompée, soit dans la Garonne, soit dans l'Ariège, ou les deux. Au niveau de la confluence, ce captage, il alimente les usines de Pêche David et l'usine de Clairfont. Soit ça peut être pompé aussi en aval à Grenade pour l'usine de Saint-Capré, qui ne fait pas partie de la métropole, mais qui alimente des communes de la métropole aussi. Soit c'est un pompage de l'eau de la Garonne qui se fait de manière indirecte. Par exemple, l'usine Marquisa à Tournefeuille pompe dans le canal Saint-Martory, qui est alimenté par la Garonne très en amont, et fait un appoint, si besoin, avec le lac de la Ramée. Il y a aussi un pompage qui se fait au canal latéral de la Garonne qui alimente l'usine de La Courtensour, qui pose des questions. L'usine qui pompe aussi directement dans la Garonne, parce que c'est un pompage qui se fait en aval du cœur de l'agglomération toulousaine, où il y a les rejets qui se font dans la Garonne, notamment du pluvial. Donc du coup, c'est un pompage qui se fait sur une eau qui est plus polluée qu'en amont. Et effectivement, d'ailleurs, l'Agence régionale de la santé a émis un avis défavorable, d'ailleurs, sur la qualité environnementale. Donc, cette usine, à terme, de la Courtensour, il n'est pas prévu qu'elle continue de fonctionner, ce qui pose d'importantes questions. Et ça peut être pompé aussi sur un canal qui envoie de l'eau de la Garonne sur une gravière pour l'usine de Roc. Après, il y a des communes, notamment dans l'Est toulousain, qui historiquement, elles, sont alimentées par ce qu'on appelle l'Institut de la Montagne Noire, qui est un syndicat mixte, avec une eau qui vient notamment du château d'eau de La Valette et une usine en Sorèze avec une eau d'une très grande qualité qui vient de Montagne Noire, qui nécessite beaucoup moins de traitement. Donc il y a des communes qui sont forcément aussi intéressées d'être alimentées, donc il y a des enjeux à ce niveau-là.
Le coût de revient de l'eau que nous buvons, il est constitué de quoi? On a le détail à peu près, je suppose qu'il y a le coût du captage, le coût du retraitement pour la rendre potable, le coût de l'acheminement. Quelle est la part la plus importante?
Alors, quand on paye sa facture d'eau, on paye les services publics de l'eau, de la distribution d'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Donc l'argent de ces factures, c'est ça qui finance l'ensemble de ces services. Dans la facture, il y a plusieurs parties. Il y a une partie sur la production et la distribution d'eau potable qui passe pour environ 30% en moyenne. Une partie qui concerne l'assainissement pour 43%. Il y a des redevances. Donc ça, c'est fixé par l'État, qui vont nous, en particulier à l'Agence de l'eau, pour traiter la préservation de la ressource. Les redevances pèsent pour 17% dans la facture d'eau, et il y a la TVA, qu'on globalise au assainissement, et à 7%. Donc, dans ce qu'on paye dans sa facture d'eau, la consommation d'eau potable, même si il faut voir qu'il y a une part d'abonnement, qui joue un rôle déterminant sur le prix total, mais c'est 33% de la facture d'eau. Donc ça sert à financer tout le service de production et de distribution d'eau potable, tant en fonctionnement, en entretien, qu'en investissement aussi. S'il faut investir, par exemple, pour étendre les réseaux avec l'urbanisation, c'est l'argent de cette ligne de la facture qui sert à financer aussi les investissements. Donc, par exemple, sur une facture, en gros, on est à 3,75 € qu'on rapporte au mètre cube d'eau consommée. Pour l'ensemble de la facture, il y a 1,25 € qui sont pour la production et la distribution d'eau potable.
Donc un tiers.
Voilà, un tiers. Après, sur le prix de l'eau, il y a un deuxième point qui est très important, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça soit privé ou public. Le tarif de l'eau est fixé par les élus. Et le tarif de l'eau, il existe des tarifications progressives où plus on consomme, plus le prix du mètre cube est cher pour inciter à ce qu'il y ait moins de consommation. C'est un débat qui ne sort pas actuellement, puisque pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que le privé fera ses offres en termes de tarification avec un objectif fixé par la métropole. Mais la question de la tarification progressive se pose, en particulier d'une tarification aussi sociale. On a des expériences comme à Dax, où les 30 premiers mètres cubes sont offerts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement ou très faible, et les 30 premiers mètres cubes ne sont pas facturés, ce qui fait qu'il n'y a plus d'aide, de demandes d'aide à travers le fonds solidarité logement qui sont faites par les personnes, tellement ce système fonctionne bien, et ils arrivent à équilibrer en faisant payer plus les gros consommateurs. Et là, la part d'abonnement est très importante, parce que forcément, si on paye un abonnement fort, et après en fonction de sa consommation, ben, les petits consommateurs sont très impactés. Donc il faut faire attention que quand on donne un prix moyen aussi, il faut voir la situation d'une personne qui va consommer 30 mètres cubes dans l'année, une autre qui va consommer 120 mètres cubes, une autre qui va consommer 300 mètres cubes, ben, qu'on peut trouver des écarts de prix qui vont presque du simple au double quand on rapporte mètre cube. Donc le prix moyen, il faut faire attention par rapport au raisonnement qu'on peut avoir dessus, ça mérite d'être affiné en termes de tarification et en termes de politique d'investissement.
Donc, Toulouse Métropole est compétente pour les services publics de l'eau potable et de l'assainissement de ses 37 communes. Elle a décidé d'harmoniser ses services avec une tarification unique sur l'ensemble de son territoire à partir de 2020, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc maintenant se pose la question du choix entre une régie directe et une délégation de services publics à un gestionnaire privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels seraient les avantages et les inconvénients de chacun des modes de gestion de l'eau?
Alors, en termes de régie, il y a une idée qui est véhiculée par certains élus, que ça serait du coup des fonctionnaires qui géraient les services si c'était une régie. C'est totalement faux. Depuis 1926, il ne peut plus y avoir de régie directe par des fonctionnaires. Elle est une régie à autonomie financière, personnalité morale. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce qui veut dire concrètement que tout le personnel, c'est des contrats de travail de droit privé. Il y a juste le directeur, le comptable qui sont des fonctionnaires, mais tout le personnel, ce sont des contrats de droit privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une gestion actuellement par du privé, le personnel doit obligatoirement être repris à niveau équivalent dans la régie. Donc le personnel ne fait que changer d'employeur. C'est juste un transfert qui se fait. Donc il n'y a pas de souci. Côté professionnalisme, on récupère les compétences du privé, les savoir-faire, dans le sens où le personnel, a priori, devrait être repris intégralement dans la régie. Les installations, quant à elles, sont la propriété de la collectivité. Donc ça, que ça soit une régie ou une délégation de service public, ça ne change pas. Mais sur le point du personnel, c'est un point à bien avoir en tête, c'est qu'on garderait en fait très probablement l'ensemble des agents, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, pour l'Ouest toulousain, qui travaillent actuellement sur le service. En termes d'avantages et inconvénients,
J'entendais qu'une régie, ce serait plus transparent, en tout cas, qu'il y aurait plus de contrôle de la part des élus et donc des citoyens.
Alors, quand il y a un délégataire privé, il est obligé de faire un rapport tous les ans à la collectivité qui l'embauche pour faire le compte-rendu de son activité. Ce rapport prend une forme, en particulier du point de vue des comptes, un peu particulière, dans le sens où ils n'ont pas d'obligation de rendre leur comptabilité analytique classique. C'est une grille comptable qui est validée par le gouvernement, qui est celle proposée par la Fédération des opérateurs privés, la FP2E, qui rend très difficile de comprendre effectivement à quoi sert l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été souligné dans différents rapports de la Cour des comptes. Quand ils ont tenté d'analyser les données comptables fournies par les délégataires privés, la plupart du temps, ils disent « ben là, on ne peut pas apprécier les données parce qu'on n'a pas ce qu'il faut ». Effectivement, en régie, c'est une comptabilité publique, accessible à tous. Il y a aussi des changements au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire que dans une régie publique, il y a un conseil d'administration à majorité d'élus, donc de la métropole en l'occurrence, puisque ça serait une régie métropolitaine. Et il y a la possibilité d'ouvrir le conseil d'administration à d'autres catégories d'acteurs. Donc du coup, ça ouvre la porte à avoir au sein du conseil d'administration des associations, par exemple, d'usagers qui vont dire « Ah oui, là, il faudrait baisser le prix de l'eau ». Il peut y avoir des associations environnementales qui disent « Ah mais là, il faut travailler la ressource ». Il peut y avoir aussi des représentants du personnel qui vont dire « Ah ben là, si on réduit le prix de l'eau, est-ce qu'on ne va pas du coup diminuer le personnel ?» On peut même imaginer une articulation avec des acteurs qui sont impliqués dans la politique de l'eau, tels que l'agence de l'eau, par exemple. Ça veut dire que dans les discussions au sein de l'organe qui prendra les décisions, le conseil d'administration, pour la régie, on pourrait avoir une pluralité de regards qui rend aussi difficile qu'on oublie certains sujets, que les points importants ne soient pas débattus. Ça peut accompagner les élus dans un travail de fond, parallèlement à la gestion au quotidien de la régie. Donc il y a cette gouvernance qui est très différente aussi au sein d'une régie. On peut parler aussi en termes de temps de réactivité. Une entreprise privée, quand elle a un contrat, elle programme son activité en fonction de ce contrat. Ça veut dire que si les élus veulent qu'il y ait un changement pendant la durée du contrat, ils sont obligés de négocier un avenant au contrat pour que ce changement puisse se mettre en œuvre, et ce qui est souvent compliqué pour l'entreprise qui, elle, n'avait pas prévu ce changement. Donc souvent, ça prend du temps. Alors que dans une régie, s'il y a une décision qui est prise par les élus, elle peut être mise en œuvre immédiatement. Donc il y a des temps de réactivité aussi qui sont différents. Les élus ont tendance à être rassurés quand ils délèguent au privé. Parce que du coup, ce n'est pas eux qui ont besoin de gérer en direct et de prendre les décisions au sein du conseil d'administration de la régie. Ils délèguent au privé cette gestion, même s'ils la contrôlent. Donc comme en même temps, le privé doit exercer son activité pour le service public et pour les élus. Donc de toute façon, les élus doivent s'impliquer aussi quand même dans le contrôle. Alors là aussi, il y a une différence, c'est comment ils vont contrôler l'activité du privé. Ça veut dire que la métropole, au sein de ses services, va être obligée de mettre en place des agents pour contrôler l'activité. Et là, on est sur quand même un marché à 1,2 milliard pour l'eau et l'assainissement. Il faudra beaucoup d'agents pour contrôler l'activité du privé. Donc il y a des différences en termes de personnel aussi.
Alors je voudrais revenir à un autre sujet, parce qu'on parle évidemment du choix pour la gestion de l'eau entre une régie ou une délégation de services publics et un gestionnaire privé. Mais est-ce que le principal chantier finalement, ce qui fait que l'eau va coûter plus ou moins cher, ce ne serait pas plutôt la qualité de l'eau de la Garonne ? Plus en amont d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré. Ce qui coûte cher souvent, c'est de retraiter l'eau. Est-ce que, justement, dans les années qui viennent, on ne devrait pas travailler sur les sources de pollution de la Garonne en amont? Et là, je pense, entre autres, à cette source de pollution qui est l'agriculture intensive.
Alors, la préservation de la ressource, c'est un enjeu majeur pour l'avenir, ça, tout le monde le dit. Après, il ne faut pas oublier qu'en France, on est dans une situation un peu bizarre, parce que tout le monde dit que c'est un enjeu majeur pour l'avenir, la préservation de la ressource en eau. Pour autant, il n'y a rien, par exemple, qui protège les nappes phréatiques. Rien. Aucune disposition législative ou réglementaire. Donc, il ne faut pas l'oublier qu'on est dans un contexte un peu particulier en France.
Un peu schizophrène, comme on dit.
Voilà. Donc, effectivement, quand on pense en nappe phréatique, on pense aussi à l'agriculture intensive dans le sens industriel avec usage de pesticides.
De nitrates,
etc. Clairement, le Lauragais, par exemple, la pollution des nappes est très impactée par l'utilisation intensive de nitrates. On a des endroits, que ce soit en France ou même à l'étranger, l'exemple le plus connu, c'est Munich, où on puise dans les nappes et du coup, il y a eu un gros travail à moyen terme de fait que les agriculteurs prennent une conversion biologique de manière à ce que les nappes soient moins polluées. Et on arrive en général au bout de 10-15 ans de travail avec les agriculteurs à faire cette conversion, s'il y a un volontarisme politique important, qui permet effectivement d'avoir une eau qui pourrait presque être utilisée
telle qu'elle
est prélevée. Par contre, sur Toulouse Métropole, on a cette particularité qu'on prend dans la Garonne. Et que la Garonne, il y a tous ces affluents qui arrivent, que du coup, pour traiter ce problème en amont de la pollution, c'est un chantier très vaste où là, il y aurait vraiment un énorme effort à mener parce qu'on ne sent pas que ce chantier soit prioritaire, alors qu'en plus, vu l'ensemble des territoires qui sont concernés parce qu'ils touchent des affluents de la Garonne et il faudrait une volonté politique sans doute beaucoup plus forte pour que ça soit engagé. La région a des réflexions dans ce sens, il y a différentes collectivités qui travaillent là-dessus, l'agence de l'eau a aussi des réflexions, mais on ne sent pas que les efforts, ou en tout cas le volontarisme, soient à la hauteur de l'enjeu. Alors, il y a une autre question avec la Garonne, c'est l'étiage.
Absolument.
Parce qu'il voilà, y a
on
des...
On annonce un étiage réduit de moitié d'ici 2050.
Voilà, donc on le voit déjà depuis pas mal d'années qu'il y a des restrictions pour les agriculteurs l'été. Que le préfet ordonne au moment où la Garonne est la plus basse à l'étiage. Donc ça pose question. Dans les scénarios qui ont été examinés par les services métropolitains pour essayer de prévoir un peu à horizon 2025, à horizon où on a un peu une visibilité sur l'urbanisation, donc des besoins, ils estiment que pour les usines de pêche David, qui prélèvent donc dans la Garonne, même en période de pointe, qui se trouve être l'été, au moment de l'étiage, ça serait à peu près 4% du débit de l'étiage qui serait prélevé. Alors que normalement, on est plutôt à 0,8% quand on prend le débit moyen de la Garonne. Le maximum de prélèvement qui est autorisé, c'est 14%. Donc, on peut considérer qu'il y a une marge, par rapport à ça et que ça ne serait pas nécessairement plus coûteux. Par contre, le problème de l'écosystème de la Garonne, d'une manière globale, est une question de fond, mais qui relève peut-être moins du petit cycle de l'eau qui est l'eau qu'on prélève, qu'on distribue aux consommateurs et qui repart après dans les eaux usées et les rejets dans le milieu naturel depuis des stations d'épuration des eaux usées, mais qui relève plus du grand cycle de l'eau, où là, il y a peut-être une réflexion globale sur la Garonne, où là, tous les spécialistes disent qu'il y a un état critique depuis de nombreuses années. On a vu même à Toulouse des algues proliférer récemment. Ça, c'est parce que la Garonne n'est pas assez vivante, oui, que ces algues prolifèrent. Il y a différents indicateurs qui le montrent. Les pêcheurs le savent depuis bien longtemps, mais et il y a une préoccupation, effectivement, par rapport à la Garonne, qui interroge aussi les prélèvements faits par l'agriculture, notamment le maïs, qui est très consommateur
d'eau.
Oui. Donc, de réfléchir peut-être aux conversions de l'agriculture intensive, notamment en particulier du maïs. Réfléchir aussi d'optimiser les arrosages. Il y a aussi l'agroforesterie qui est expérimentée à différents endroits. Il y a aussi des bassins de rétention qui peuvent être mis localement. Il y a toute une réflexion globale à approfondir.
C'est presque un choix de société, là, vraiment. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci infiniment, Guillaume Drigeard, d'avoir accepté de venir à Métropolez-vous pour éclairer notre lanterne sur cette question cruciale de la gestion de l'eau potable dans la métropole toulousaine et sur le devenir de celle-ci dans les années qui viennent. J'espère que nous serons parvenus à faire le tableau plus clair possible de la situation actuelle et à vous montrer tous les enjeux de la réflexion et des débats en cours concernant le choix du futur mode de gestion métropolitain. Il va de soi que l'option qui sera choisie va engager durablement la politique de l'eau de la métropole et donc les conséquences de celle-ci pour les citoyens que nous sommes tous. Afin de bien prendre la mesure de l'enjeu, je vous invite à vous informer sur le site internet de Toulouse Métropole www.toulouse-métropole.fr à la catégorie mission rubrique eau assainissement. Vous pouvez bien sûr aussi consulter le site du CODEV www.codev-toulouse.org où il est possible de télécharger la synthèse des échanges du Café Débat sur la gestion de l'eau. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.